Le savoir est toujours un souvenir. Céline Minard, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui met à flot sa 28e saison avec comme marraine pour fracasser un magnum de brut sur la coque de notre vaisseau fantôme, Céline Minard, qui sera notre invitée pour Tovahangar, paru aux éditions Rivage dans le sillage du Dernier Monde et de Plasma. Céline Minard nous offre peint à fresque l'évocation d'un monde d'après, fascinant et insolite, où toutes les cartes sont rebattues des êtres et des choses. L'homme n'y est plus qu'un souvenir, son monde un amas insolite de traces et de signes. Chronique en second temps d'émission, signée Céline Duchesnay, Fleur Hopkins, Loferon et Élise Lépine. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux, c'est peu dire, de vous retrouver. J'espère vraiment du fond du cœur que vous avez passé de mauvaises vacances. J'entends par là des vacances mauvais genre, à lire, à regarder en DVD ou Blu-ray tous les films, tous les livres peu recommandables que nous vous avons recommandés tout au long de la saison écoulée. Puis rassurez-vous, nous sommes pire qu'avant et nous vous recommanderons de nouveau les livres les plus redoutables que vous puissiez lire aujourd'hui dans ce noble pays qu'est la France. Et nous ouvrons notre saison avec Céline Minard, que je salue.
Bonjour.
Alors l'an dernier, on ouvrait la saison avec Trash Vortex de Mathieu Larnaudy. C'était aux éditions Actes Sud. C'était un épais volume apocalyptique sur justement le mécénat et puis l'apocalypse d'une certaine façon. Un grand livre qui était vraiment à la fois une réflexion philosophique et linguistique sur le présent et puis ce qui vient, ce qui nous vient dessus. Le tsunami qui nous menace. Et ben, cette année, on reprend un livre dans une perspective un peu égale, c'est-à-dire un livre d'une ambition folle qui est la vôtre, Séminaire avec Tovahangar, et puis qui pose aussi des questions un peu. Alors là, c'est pas le monde qui vient, mais c'est le monde d'après, donc une sorte d'autre monde pour lequel il faut trouver une autre manière d'écrire, de parler, de figurer les choses et de penser la réalité. Soyez la bienvenue pour ce premier numéro de Mauvais Genre.
Merci.
Où je serai en compagnie de Céline Duchesnay.
Bonsoir François.
Bonnes vacances.
Studieuse.
Studieuse, ben, c'est toujours ce qu'on dit. Pour éviter d'en dire plus, studieuse, très bien. À bientôt un livre.
Eh bien, c'est bien ce que je disais. J'ai passé des vacances studieuses, mais pour enfanter d'un nouveau livre. Donc ça valait peut-être le coup.
Très bien.
Il est en train de rôtir.
De rôtir.
Oui, c'est la conception que j'ai des enfants. Il va être tout beau, tout pailleté.
L'enfant voilà. À la broche. Élise Lépine, qu'on a pu entendre avec profit et bonheur tout au mois d'août, tout le long du mois d'août à France Culture.
Avec grande joie. Ouais,
expérience concluante et conclue.
Expérience exaltante, mais j'avais appris du meilleur.
Bah voilà, merci. Bah, on espère vous retrouver. En tout cas, on vous retrouvera à Mauvais Genre, bien évidemment, tout au long de cette année. Fleur Hopkins-Loferon, comment va-t-elle ?
Vacances très studieuses. Voilà. Bonsoir François.
Décidément, tout le monde est très très studieux. Bah, vous êtes studieux, Céline Minard. Est-ce que c'est l'adjectif qui vous caractérise le mieux, studieux ?
Non, moi j'ai fait du mortier et de l'enduit tous les deux.
Du mortier et de l'enduit.
L'étude était avant, elle sera après, mais.
Vous pouvez faire studieusement du mortier et de l'enduit, voilà. Vous nous raconterez un jour vos aventures de maçonne et d'architecte. En tout cas, l'émission sera tout au long de cette année, bien évidemment, réalisée par Laurent Polleret, que je salue. Là, avec Jean-Guy Lamèche, que je salue également, qu'on retrouvera tous les samedis, la plupart du temps en direct, mais quelquefois en enregistré. Puis toute l'équipe de l'émission que vous redécouvrirez tout au long des émissions du mois de septembre. En attendant, eh bien, on va entendre la vision que nous livre Laurent Polleret de Tovahangar, le roman de Céline Minard. vous reconnaissez un peu les échos, une chambre d'écho de votre livre
dans ce... Je redécouvre. J'ai pas bien entendu les crapauds, mais ils doivent être quelque part. Oui, en tout cas, il y a de l'espace.
Ça, voilà, c'est ça. On respire. C'est des sonorités qui permettent de respirer au large, ce qui est un peu effectivement l'expérience que vous nous offrez. Alors, ce livre, il a été précédé par deux autres que je cite pour nos auditeurs. Le Dernier Monde, qui est disponible en folio, et puis Plasma. Est-ce que vous avez un rapport particulier ? On sait que vous travaillez pas mal sur les gens, que ce peut être aussi les livres de combat, de bataille. Quel rapport vous avez avec les genres littéraires ? Vous les travaillez comme ça, de manière un peu comme à la boxe, on travaille le sac. Quel rapport vous avez avec eux ?
En fait, je sais pas. Je sais même pas si j'ai des rapports avec les genres. Je crois que j'en ai pas. Je les traverse sans me rendre compte que, tiens, c'était un genre. Je pense que les sacs, là, m'intéressent pas. Ou m'intéressent quand ils éclatent, effectivement.
Ouais,
mais je me dis pas, tiens, je vais prendre le western et puis l'exploser. C'est pas ça. C'est plutôt que différents textes me parlent, se rencontrent, et il se trouve qu'ils appartiennent à des genres qui ne sont pas les mêmes. Et donc, je les fais peut-être se rencontrer, se croiser, se tricoter et déborder de ce qu'on croit être le cadre dans lequel j'ai l'impression, l'air de m'inscrire et où je vais finalement pas du tout inscrire le texte.
Mais vous avez eu le Grand Prix de l'imaginaire. Est-ce que la notion d'imaginaire qui aujourd'hui sert à, qui constitue une espèce de grande poche dans laquelle on met toutes sortes de littérature, est-ce que c'est un mot qui vous plaît, qui vous...
Ben moi, c'est un mot qui me ravit, c'est un mot voilà qui m'enchante, c'est peut-être, je crois que ça devient le seul mot qui m'intéresse en littérature, et c'est tout, c'est ça qui porte, c'est ça que je travaille, ça, l'espace imaginaire, l'espace littéraire et l'espace imaginaire, pour moi c'est la même chose.
L'espace de la langue d'abord.
L'espace de la langue et puis la profondeur aussi, le temps, le volume que l'imaginaire peut créer, mais vraiment, enfin concrètement.
Alors, Tovanga est pour nous quand même l'événement de la rentrée parce que c'est une expérience de lecture totale, à la fois dans l'écriture, avec tout le travail de genèse linguistique qu'il a demandé, d'organisation, lexicale, en même temps avec l'imaginaire qui s'y déploie, avec le projet, presque philosophique, historique qu'il y a à l'intérieur. C'est véritablement un ouvrage important sur ce plan-là. On va demander faire un tour de table, un premier tour de table, Céline Duchesnet, Tova Hangar, expérience de lecture.
Eh bien, je crois qu'il faut vivre ça en effet comme une expérience. C'est le terme qui me vient aussi à l'esprit. Je dirais moi plutôt même une expédition. Et oui, il faut en fait. C'est un volume assez conséquent de 670 pages, voilà. Sans compter le glossaire. Et je crois qu'il ne faut pas se laisser arrêter par les premières pages où il y a tout de même quelques mots de vocabulaire. On rentre dans un monde, donc on se retrouve avec des mots de vocabulaire qu'on ne possède pas, qu'on ne comprend pas. Il peut y avoir le glossaire pour nous aider. Parfois, ça peut même apporter un petit peu plus de confusion parce qu'on est dans le futur et on traverse des mondes où, a priori, nous, pauvres lecteurs ou lectrices que nous sommes, nous n'avons pas tellement d'outils pour nous promener dans ce monde-là, mais il y a une forme de lâcher prise à un moment donné, et là, on va vers une forme, et moi, c'est ce que j'ai vraiment adoré, ce livre a été totalement consolateur pour moi cet été, j'ai vécu d'assez près les incendies qu'il y a eu, notamment dans les Corbières, et de lire après le livre de Céline Minard, ça a été autant un cheminement vers la fluidité et vers une forme de joie. Et pour une fois qu'on a un roman, alors je ne sais pas si c'est post-apocalyptique, je ne suis pas très douée pour tous ces mots-là, mais qui nous donne une vision humaniste, de dialogue, d'échange autour de créatures en tout genre, eh bien voilà, moi j'ai été consolée par le livre de Céline Minard.
Céline Minard, auteure consolatrice.
Je sais pas, en tout cas c'est vrai qu'il y a de l'eau et après il y a beaucoup d'eau et il y a beaucoup d'eau renouvelée après un incendie, c'est bien pendant aussi d'ailleurs. Consolateur peut-être pas, réparateur peut-être pas, mais réparé peut-être déjà.
Et le dialogue, rien que par la communication et le dialogue, pour moi c'est une forme de consolation de voir des êtres humains qui sont capables de s'entendre malgré leur langage différent. Oui, et qui trouve toutes sortes de moyens pour communiquer, que ce soit par la chimie, les ondes, les mots, les odeurs.
Mais là, il n'y a pas que des êtres humains. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, d'ailleurs.
Des êtres vivants.
Voilà, des êtres vivants. Plutôt, je crois que ce n'est pas un livre humaniste du tout, parce que, justement, humain...
Non, c'est des êtres vivants.
C'est nulle part dans le texte, ça. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quels sont ses corps, mais... Effectivement, tout le monde parle et tout le monde se parle et personne ne se fait taire, en fait. Et les relations sont plutôt souples. Alors, évidemment, ça nous change un peu.
Mais oui.
Élise Lépine, alors déjà, on peut peut-être essayer de cadrer un peu la narration, l'histoire. De quoi s'agit-il?
Oui, alors moi, c'est un roman que j'ai adoré. Céline Duchesne parlait de la joie que lui a procuré le texte. Moi, j'avais une grande joie aussi à retrouver ces personnages. Alors, on a en gros des expés. Donc, sont des personnes ou des individus parmi les corps qui vivent dans... On est près de Los Angeles, en fait. Et différentes espèces se sont organisées et elles vivent comme des petites communautés ou des larges communautés. Il y a celles qui vivent sous terre et celles qui vivent sur terre. Il y a les bipèdes, il y a les bêtes à fourrure, il y a les gros cerveaux, il y a les créates. Enfin, on reconnaît certaines espèces qu'on peut connaître. On pense à la salamandre, on pense à l'écureuil, enfin voilà, toutes ces espèces sont à peu près identifiables. Mais on suit deux différentes équipes. La première, c'est celle d'Amaryllis qui part en expédition et puis qui perd un instrument dont elle a beaucoup besoin. Puis elle se rend compte qu'on lui a pris et qu'en échange, elle va proposer au gros cerveau. Donc là, c'est une autre espèce qui lui a pris sa cab, de l'accompagner en expé. Lui, en rêve, donc il part avec elle et puis ils partent donc ensemble pour l'expé vers... On est dans la région de Los Angeles, hein, je l'ai dit, et ils partent en suivant la rivière. Et une autre créature est aussi en expé, et là on est plus du côté des hydros, donc des batraciens, ou moi j'ai pensé à une salamandre géante. Enfin, voilà, on est face à une autre créature qui, elle, va partir et va être rejointe aussi par d'autres petites créatures assez spéciales, assez spécifiques, qui ont un rapport au monde assez incroyable. Et donc on découvre, au fil de leur pérégrination, eh bien... à la fois l'environnement géographique, géologique, naturel, les plantes, etc., les arbres, et puis les modes de vie de chacune de ces créatures qui toutes ont la faculté de communiquer sensoriellement ou par la pensée ou en rentrant dans les souvenirs de l'autre, etc. Et c'est une exploration à la fois physique, à la fois intérieure, à la fois biologique et à la fois historique, puisque l'une de ces créatures est un robot ou une machine et qu'elle a une mémoire qui, elle, est plus proche de l'intelligence artificielle et va se souvenir. Et donc, on va à un moment donné être éclairé aussi sur ce qui s'est passé à notre ère contemporaine avec le pétrole, etc. Et j'ai trouvé ça, mais fascinant. Et je me suis glissée dans le livre avec beaucoup de plaisir à chaque fois que je le rejoignais, parce que il y avait à la fois cette curiosité immense que vous provoquez chez nous en créant un monde entier avec son langage, et de l'autre, eh bien, le jeu auquel vous jouez avec nous, qui nous incite à ouvrir nos oreilles littéraires et à entendre un autre dialogue que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans une rentrée qui ne parle que de papa et de maman. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Céline Minard.
Je suis ravie d'entendre ça.
Ah bah, j'imagine.
Voilà, c'est parfait.
Non, mais ça montre bien que c'est la cosmogénèse. Vous avez inventé un monde complet, et ce monde n'est pas, je dirais, raconté, narré, mis en scène avec le langage basique. Il a fallu inventer une autre langue pour un autre monde. Il y a quand même un enjeu linguistique. Et ce que disait Céline Duchesne est, à mon avis, il faut se laisser faire.
Voilà.
C'est un livre, il ne faut pas arriver avec le côté « tac, je domine, j'y vais, je procède, j'avance ». Ce n'est pas l'expédition vernienne où on avance avec le coupe-coupe, le sac à dos, tout ça. Là, il faut d'une certaine façon se fondre un peu dans le texte. C'est quand même un pari extrêmement... important pour un écrivain, justement, de dire au lecteur, eh ben, écoutez, on quitte les vieilles postures classiques néo-académiques de surplomb pour s'immerger dans cette espèce d'humus linguistique.
Oui, alors, je pense que c'est le seul pari possible en même temps. Il n'y a pas d'autre pari à faire quand on écrit. Pour moi, il n'y en a pas d'autre. Et de proposer précisément une expérience de lecture. Vous aviez tout à fait raison avec ce mot, puisque c'est vraiment quelque chose qu'il faut
risquer. Il faut risquer la lecture. C'est pas, c'est un acte. C'est pas du tout. C'est très actif de lire. Donc c'est pas du tout recevoir. C'est pas recevoir. C'est entrer. C'est se frayer son propre chemin dans le texte avec peut-être des mots un peu bizarres. Après, je dois dire quand même que c'est pas une langue nouvelle. C'est écrit relativement en français la plupart du temps. Oui. Il y a quelques mots dérivés de l'anglais. C'est très facile. Parce que, vu mon niveau d'anglais, ça pouvait pas être compliqué. Et puis, la cab, qui est le seul mot étrange des deux premiers chapitres, c'est quelque chose dont on comprend très vite l'utilité, l'aspect, etc. C'est immédiatement décrit. Donc, il y a à la fois... Moi, il me semble que là, c'est quand même super facile à lire et qu'un gamin de 10 ans pourrait très bien commencer ce livre et aller jusqu'au bout sans tous les réflexes un petit peu d'effroi qu'auraient des adultes. Et que, voilà, les adultes, à nouveau, je leur demande de me faire confiance. Je ne suis pas folle, je parle français.
Le flux de Paimi Pachait baignait mollement l'immense gencive. La grande gueule n'avait rien à mordre, rien à mâcher ni à contraindre. La rivière se prélassait devant elle, nonchalante. Elle remuait à peine comme un poisson nargue un chat, affleurant à la surface, captant son attention réflexe, son désir et, au-delà de sa faim, sa pulsion sanguinaire, certain de sa fuite et de la supériorité de sa vitesse relative. Paimi Pachait jouait à chat avec le barrage. Elle lui offrait sa minceur, ses micro-contorsions, son irrépressible volonté qui s'infiltrait, forait, perçait et venait à bout en tout lieu depuis la nuit des temps des matériaux les plus résistants. La gueule du barrage avait des caries. Ses dents étaient secrètement minées. Le petit contact de l'eau, incessant, traçait des chemins de verre dans sa structure osseuse. Le phénomène était invisible, la grande mâchoire grise tremblait sur sa base. Encore une dizaine de saisons pluvieuses, quelques cycles, une furie subite, un bon débordement, et c'en serait fini. Les dents se déchausseraient l'une après l'autre, dégringoleraient dans le flux en gros blocs erratiques, et seraient réduites en poussière et avalées par la rivière. Rien ne retient l'eau, rien ne la dirige longtemps, les castors le savent. On ne peut être qu'en dialogue constant avec elle, agir en diplomate, user de ruses, de rhétorique architecturale, de remaniement perpétuel. On peut jouer avec elle et se montrer assez subtil pour lui faire construire des bulles à vivre, des bassins à boire, des balancelles et des moulins. Mais gare à celui qui croit opposer sa puissance à la sienne. L'eau est constante. Elle ne se perd pas. Elle ne fuit pas. Elle échappe. Se reforme et contrariée, elle vous submerge et vous noie. Ama rejoignit les aigrettes et continua tout droit vers la crête du barrage. Elle prit sur l'encochement, les yeux rivés au sommet, mais aussitôt qu'elle sentit l'étrangeté au travers de ses mocassins, elle s'arrêta. Un extrait de Top Avant-Garde de Céline Minard, notre première invitée de la saison d'un mauvais genre sur France Culture. Ah bah oui, il a l'eau, avant tout, d'abord et avant tout, l'eau invincible, l'eau omniprésente, omnipotente. C'est un grand roman, je ne vais pas dire liquide, mais sur la puissance de l'eau, la puissance de conviction de l'eau.
C'est vrai. Céline Minard. C'est vrai. C'est l'eau structure le roman, à la fois le.
Bon, parce qu'on descend en
On descend
une rivière.
On descend une rivière. À partir du moment où ils la croisent, ils vont plus la quitter. On va la retrouver à différents moments et dans différents états, puisqu'il va y avoir un orage et un épisode de flash flood. Alors il y a différentes vitesses de la rivière et c'est
et la rivière de Los Angeles a vraiment des changements d'état très rapides. C'est une rivière très rapide parce que la pente est forte jusqu'à l'exutoire, même si ça ne se voit pas. Et voilà, elle peut être un mince filet ou devenir complètement torrentielle et emporter tout sur son passage. Elle a changé son cours plusieurs fois dans l'histoire en très peu de temps. Elle a terrassé tout le plateau. Oui, c'est l'eau dans toute sa puissance et dans toutes les potentielles transformations, même architecturales, sédimentaires, etc., qui est à l'œuvre. Et les corps qui vivent avec, dedans, autour, et qui vont eux aussi apporter quelque chose à l'eau.
Et le flash flood, qu'est-ce que c'est?
C'est une inondation flash, rapide.
Rapide, une espèce de crue soudaine.
C'est ça.
Fleur Hopkins-Leferron, alors vous avez été particulièrement marqué par, je dirais, toutes ces... Quel mot utiliser? Pas des peuplades, ni des ethnies, ni des races, ni des espèces.
Des corps avec un C majuscule.
Des corps,
c'est
voilà.
Le mot qui est utilisé dans le roman.
Moi, je suis encore pris dans les vieux, la vieille forme, le vieux lexique. Alors vous, faites-nous les honneurs du nouveau lexique.
Tout à fait. C'est vrai que moi, ma lecture au départ était très déstabilisée. Parce qu'on a très envie, quand on lit un roman qui est souvent qualifié alors de cozy fantasy, d'apocalypse joyeuse, on a envie de tirer un trait, de se dire « Ah, c'est du Becky Chambers, c'est du Martha Wells, on sait qu'on va être dans du solarpunk ». Et en fin de compte, vous nous offrez vraiment une expérience de lecture qui est plutôt de l'ordre philosophique. Et moi, je suis plutôt allée voir du côté des ramifications possibles avec des écrits comme Donna Haraway. J'ai senti chez vous quelque chose sur le compagnonnage des espèces. Et c'est là où il y a eu pour moi une vraie rencontre avec le texte, où j'ai eu le sentiment que ce que vous nous proposiez était très inédit, celui d'une fluidité des espèces, une fluidité des corps, que ce soit de l'animal humain, du non-humain, peu importait, du moment qu'il y avait une résonance qui se faisait. Donc là, c'est vraiment où moi, j'ai eu une rencontre avec le texte, et j'ai aussi été très sensible concernant toute votre réflexion sur la mémoire, le temps profond. Vous parlez des temps géologiques. Et à ce niveau-là, je trouve quelque chose d'assez vertigineux sur la manière dont ce texte est le dépositaire aussi d'un travail de mémoire qui est fait par ces différents actants dans ce texte, qui essayent toujours de rattraper le souvenir, la mémoire, leur devenir. Et tant bien que mal, ils essayent de communiquer. Et c'est là où je trouve que nous-mêmes, lecteurs, on est pris dans un travail toujours en corps à corps avec ce texte. On a l'impression parfois qu'il nous perd, qu'il nous échappe, et on le récupère par des petits moments comme ça de contemplation, de philosophie. Et voilà, parfois je me suis laissée dépasser par le texte en disant « Ah, je suis plus trop sûre de comprendre ». Mais ça me rattrapait par un autre aspect, celui de la contemplation philosophique, parce que c'était par la connexion avec ces êtres, ces corps avec un C majuscule, que sur le plan sentimental, j'arrivais à me raccrocher aux branches comme l'une des clématites dans les arbres.
C'est Luminard.
Très bien, oui. Il y a effectivement aussi du Donna Haraway, mais il y a du Becky Chambers. Il y a une espèce de... C'est toujours un faisceau de rencontres, exactement comme la rivière. Elle a plusieurs sources. Il n'y a jamais une source à une rivière. Il y en a pas une infinité, mais il y en a de nombreuses. Et c'est ça qui se passe quand un texte se monte ou commence à effervescer. C'est qu'il a toutes ses ramifications et ça se rejoint à un moment, même si ça va vous déborder et vous rattraper par un plus petit bras. Mais c'est une très belle lecture aussi. Et moi, je pense que l'expérience du débordement fait partie de l'expérience de lecture et qu'il y a quelque chose où quand le verbe est enfin, je veux dire, là, c'est quand même le propos, il y a de l'inondation. Et donc, il faut par moments être submergé et ne pas tout saisir. Et l'eau fait ça, elle échappe, mais le langage aussi fait ça. Exactement comme il est protéiforme, comme l'eau peut l'être. L'eau prend la forme de son contenant. Le langage, ça va quand même passer dans votre tête, dans la vôtre. Ça va pas faire la même forme. Le livre n'a pas la même forme. Je sais ce que j'écris, évidemment. Et je sais que je donne une forme néanmoins. Dans la lecture, c'est aussi ce travail de rivière, d'une certaine façon, qui va prendre des chemins chez vous, qui prendront que ça ne prendra pas chez vous. Voilà, c'est, vous voyez Haraway, vous voyez l'eau, vous voyez, il y a de multiples façons d'entrer dans ce texte et de se laisser balloter, déborder et remettre vers l'exutoire dans la direction finale.
Élise Lépine.
Oui, je suis d'accord sur l'expérience de lecture qui est à la fois intime et en même temps que j'ai trouvé très agréable par ailleurs. Et le style est très beau. Mais je me pose la question de l'expérience de l'écriture. Comment est-ce que vous avez navigué justement sur cette matière? Déjà, d'où est-ce que est venue l'idée de projeter comme ça votre littérature? J'avais adoré Plasma, moi, qui déjà donnait la parole à des créatures non humaines et à des voix comme ça étranges. Mais comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous projeter dans cet endroit géographique? Comment est-ce que vous avez travaillé les recherches? Et comment est-ce que vous avez ordonné un tel texte qui se déploie comme ça, comme une jungle?
Oui, alors ordonné...
Oui, mais c'est quand même ordonné, c'est quand même tenu. On n'est pas complètement perdu. C'est pas fouillis comme texte, c'est vraiment tenu.
C'est tenu puisque c'est un trajet précis de la rivière à un moment donné, dans une durée donnée. Je sais pas, moi, de toute façon, je pense que les humains m'intéressent de moins en moins. Enfin, déjà d'emplacement, il n'y en avait plus beaucoup. Là, à nouveau, il n'y en a plus beaucoup. Il reste quelques exemplaires, mais on les appelle même plus humains. Eux-mêmes ne s'appellent plus humains parce que ça n'est pas pertinent. Voilà, donc je pense que là, j'ai envie de voir évoluer beaucoup de formes de vie différentes. Mais ceci dit, c'est notre monde, c'est un autre monde, d'accord. Mais enfin, voilà, on reconnaît les salamandres, les anours, les aigrettes et tout ça existe. Simplement, ce petit pas de côté, parce que ça n'est qu'un petit pas de côté, exactement comme avec le lexique. Hein. Concrete, c'est pas super long.
C'est le béton, c'est un mot anglais pour le béton.
Oui, voilà.
Il y a bitume aussi, qui est entre béton et bitume. Voilà. Il y a tout un jeu permanent.
Oui, c'est juste un grain de sable. Mmh. Hein, comme ce livre est juste un grain de sable pour regarder le monde autrement. Celui qu'on a déjà sous les yeux, avec les bestioles qu'on a déjà sous les yeux. Voilà, comment ça m'est venu, c'est quand j'ai traversé la rivière de Los Angeles et que je n'ai pas compris que c'était une rivière. Alors là, c'était très choquant pour moi.
C'est-à-dire ?
Vous ne pouvez pas comprendre que c'est une rivière. Vous avez une autoroute et puis avec une fuite, un filet d'eau bien enserré. Là, et vous dites, c'est quoi ça? C'est la rivière. Ah. Et là, c'est tellement choquant que... Voilà, mais elle vient d'où? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai commencé à regarder son parcours et je me suis dit, voilà, c'est ça mon projet. Là, je vais effectivement... faire en sorte que tout ça disparaisse, le béton. Mais ce n'est pas les humains qui vont... Voilà, justement, le faire disparaître, c'est tout le monde. C'est-à-dire les bactéries, les mulots, les rats-mulots, les je sais pas quoi, tout le monde s'y met à son échelle, et pour les arbres aussi, pour faire sauter le béton par en dessous. Et tout le monde va démanteler ce carcan. Ça n'est pas une action uniquement, exclusivement humaine, ça n'est pas une décision d'une espèce, puisqu'il n'y a plus d'espèce, effectivement, c'est une décision collective. Je pense qu'il y a eu un wow-wow pour ça.
Le wow-wow, c'est donc une sorte, comme le pow-wow des Indiens, c'est une espèce de réunion de Céline Duchesne.
Mais c'est aussi un livre, je trouve, sur la coopération, parce que on rentre à chaque fois dans des peuplades différents, ces fameux corps avec un C majuscule.
Oui, mais corps, ça veut aussi dire peuplade.
Oui, voilà, ou créatures, enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait les nommer, mais à chaque fois, il s'agit de comprendre leur état d'esprit, leur façon de réfléchir, de fonctionner. Et à travers, justement, toutes ces créatures, ça nous pousse, nous, lecteurs et lectrices, à réfléchir différemment. C'est-à-dire que tout à coup, on essaye, quand on voit un arbre, de voir un arbre comme cette petite créature qui nous accompagne et qui a l'air de ressembler à un écureuil. Donc, si on est un écureuil et qu'on est face à un arbre, comment est-ce qu'on va le percevoir? Comment est-ce qu'on va dialoguer avec lui? À quel point, jusqu'à quel point, on peut commencer à grignoter les branches de cet arbre sans qu'il en prenne ombrage? Et cette manière de réfléchir autrement et de pousser un petit peu le regard, de transformer le regard, et je trouve une des grandes leçons philosophiques, en effet, du livre, sans faire de la philosophie, sans passer, je dirais, par une pensée abstraite. On est vraiment toujours dans quelque chose de très concret. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que toutes ces créatures sont mises au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les, entre guillemets, les animaux nobles, les beaux animaux, les animaux un peu mythiques. Par exemple, il y a une place qui est accordée aux limaces des mers, que moi j'ai adoré. J'ai trouvé que c'est petite créature était absolument extraordinaire. Et je parlais de coopération parce que justement, à un moment donné, il y a des sortes de rassemblements entre créatures et chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice en disant, bah voilà, moi, à partir de telle ou telle chose que je sais faire, alors ça peut être de la bave, ça fait, je n'arriverai pas à donner toutes les idées que Céline Minard donne dans le livre, mais à partir de cette coopération entre espèces, on arrive à trouver des solutions. C'est pour ça que je parlais de réconfort aussi, de quelque chose de consolateur, parce que ils ont beau ne pas parler la même langue, le même langage, et ben ils réussissent à collaborer. Et moi, qui suis une profondément utopique, je trouve que ça fait beaucoup de bien de dire ça.
Céline Minard.
Oui, mais très bien. En fait, ils parlent la même langue quand même. C'est ça aussi ce qui fait que ils n'ont pas les mêmes. Effectivement, ils n'ont pas les mêmes corps, donc ils n'ont pas les mêmes compétences. Et vous avez raison, avec du mucus, de limaces ou de limaces, ouais, et des fils d'araignées et une certaine science de la portance des géris, qui sont ces araignées d'eau, on arrive à faire un hamac de rivière qui va super bien pour un ou deux créates. Mais il faut effectivement s'y mettre, c'est-à-dire dégager la table du bar où il y a des récipients et des potions pour chaque corps et commencer à balancer des idées et émettre des hypothèses. C'est comme ça que ça marche. Oui, c'est un livre assez coopératif.
Dans la projection ultra rapide que leur affligeait la dronote, Ama reconnut la freeway qu'il avait traversée. Un dragon flamboyant, un corps long, lourd, engagé dans un mouvement tellurique d'une force à concurrencer, la formation des roches métamorphiques. Il traversait les collines, ayant tracé son chemin à coups de boutoir. Sa tête était solide, les machines étaient partout, en tas, en rang, en rond, en rocade. Elles couraient dans tous les sens et leurs filets couvraient l'immense plateau d'Iden, jusqu'à l'océan, jusqu'aux étoiles. 1000 dragons marchaient dans les quatre directions et grimpaient au flanc des montagnes. Ils n'atteignaient aucun but, ils n'en cherchaient pas. Ils occupaient le terrain en une ronde incessante. Ils tremblaient d'excitation, ils puaient. Monstrueux. Et subitement, dans ce paysage secoué de soubresauts, l'emballement connaissait un pic. Un choc cosmique, une craque, l'énorme réponse du noyau à la croûte. Un abîme fendait le fond du plateau, et tout en un instant se figeait. Le trou était énorme, il bouillait. Une matière noire en débordait, faisait des bulles plus hautes que les buildings qui l'entouraient. Des bulles qui crevaient en tentacules et couvraient de viscose ce qu'elles touchaient. L'espace alentour fut submergé par ce qui sortait en geyser brûlant, noyé, recouvert, engoncé dans ce débordement qui finit par s'étaler comme une nappe d'huile noire jusqu'à toucher la tête d'un gros dragon et l'ayant goûté à l'avaler kilomètre après kilomètre avec un appétit dont la taille était celle de la faille qui venait de s'ouvrir.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Mauvais Genre qui reçoit ce soir Céline Minard pour ce fascinant roman. Enfin, est-ce un roman d'ailleurs, Céline Minard? Est-ce que le mot roman est encore...
Oui, moi ça me va très bien, roman.
Roman.
Oui, oui.
Alors, un fascinant roman qui est Tova Hangar aux éditions Rivage. Et encore le dragon de l'apocalypse quand même. On voit que les...
Oui, oui,
il y a quelques bestiaux font de la résistance.
Il y a des moments un peu grandioses comme ça, ouais. Mais c'est du passé. C'est aussi une histoire. Ça fait partie de la cosmogonie, de la nouvelle. Voilà.
Fleur.
Oui, on entendait dans l'extrait parler de la dronaute. Alors, c'est un curieux personnage, un bot de recherche qui s'avère être conscient.
Un bot de recherche. Alors, on explique pour le boomer un peu lent.
C'est une drôle de machine consciente qui a tout un tas d'attributs et qui peut notamment accéder à des archives mémorielles qui va bien aider nos personnages et qui déploie aussi autour d'elle une aura colorée qui dit quelque chose de ses émotions. Mais ce qui m'a beaucoup frappé en feuilletant à de nombreuses reprises le glossaire qui m'a été très utile, c'est que les corps sont eux qualifiés de sensibles là où le bot est qualifié de conscient. Alors pour faire un peu la différence pour nos auditeurs, c'est des notions qui sont très très importantes dans les milieux antispécistes, puisque la sensiblerie c'est un panneau solaire, c'est une fleur qui réagit à des stimuli, là où la conscience c'est plutôt la primauté de la réflexion, de l'auto-réflexivité. Tout ça pour vous poser la question, est-ce que vous êtes sensible aux écritures aujourd'hui animalistes, je pense à des romanciers comme Camille Brunel, qui s'interrogent justement sur la manière dont on peut interroger la condition des animaux non humains dans l'espace du roman, en employant tout simplement, c'est très pompeux comme expression, l'anthropomorphisme biocentriqué, simplement on se met dans la tête des animaux, voilà, on se met dans la tête des animaux. Et c'est vraiment ce qui m'a frappé en vous lisant, il y a un travail énorme qui est fait sur saisir des consciences non humaines, comment on se met dans ces corps-là, il y a un travail éthologique voilà, qui est assez impressionnant de création d'espèces complètement inattendues, et vous parliez aussi un petit peu plus tôt de la fin des espèces, de la fluidité. Qu'est-ce que vous avez essayé de tisser au fond ? Est-ce que c'est nous montrer qu'il y a tout un tas d'espèces différentes aussi actuellement dans notre monde et qu'il faudrait s'interroger sur leur conscience, sur leurs droits, sur leur place dans notre société et sur notre interdépendance ? Ou est-ce que c'était aussi un jeu d'éthologue du futur imaginaire de se plonger dans des consciences différentes ? Est-ce que c'est un livre militant ? Au fond, c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a une réflexion antispéciste derrière ou est-ce que c'était le jeu aussi d'une romancière qui imagine une œuvre monde vertigineuse ?
Céline Minard.
Les deux. Effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de sortir, d'être hors de moi quand j'écris et de faire moi-même, en écrivant, les expériences polymorphes, de passer dans d'autres corps. Moi, je ne veux pas passer dans la tête des animaux, je veux passer dans tout leur corps. Je veux passer dans leur univers, je veux passer dans leurs sensations et dans leur sensibilité, effectivement. Voilà, parce qu'ils ont des super-pouvoirs, certains ont des super-pouvoirs, ce qui peut nous apparaître comme des super-pouvoirs, comme se diriger avec un sonar, c'est quand même, ou une écholocation. Ça c'est quelque chose, disons que si on était tous plus conscients du fait qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir le monde, qu'il n'est pas construit de la même façon en fonction du corps qu'on a, on aurait plus de champs de pensée, en fait, et on aurait plus d'espace au pluriel pour aussi organiser des rencontres ou des échanges, même furtives, même ténues. Alors, est-ce que c'est un livre militant ? Sûrement, dans ce sens-là, mais ça milite pour l'exercice de métamorphose qu'est la littérature, pour moi, déjà, d'abord. Après, passer, être conscient des animaux qui nous entourent,
Céline ?
J'aimerais vous interroger sur le titre du livre, Tova Angar. C'est un mot qui est donc en langue tongva, qui est une langue des Amérindiens qui correspond à la Californie. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que, parce que les Tongva, en tout cas ce peuple, apparaît en filigrane en tout cas, je ne veux pas trop dévoiler non plus de l'histoire du livre, mais j'aimerais bien savoir de quelle manière finalement, en tout cas ce peuple amérindien est arrivé jusqu'à vous. Est-ce que vous avez fait des recherches ? Est-ce que vous en avez rencontré quelques-uns ? Est-ce qu'ils vous ont parlé de la rivière ? Puisque c'est aussi leur monde que vous décrivez. À une autre époque, bien sûr.
C'est liminaire.
Oui, ce mot-là veut dire le monde, mais le monde situé. C'est le monde, c'est-à-dire le plateau, le bassin versant de Los Angeles. C'est précisément ça. Et ça m'intéressait beaucoup, parce que c'est le monde entier, là. Voilà, c'est circonscrit. Et c'est l'inverse du dernier monde où c'était la planète entière. Donc c'est la même chose, mais c'est l'inverse. Les Tongva sont dans le livre, effectivement. C'est un peu ils sont comme les super bons en science des relatives. Voilà, c'est les plus forts. Tous les corps sont reliés et conscients les uns des autres, mais les Tongva, ils ont des liens avec tous ceux qui sont sur le plateau. J'ai pas rencontré physiquement. J'ai eu effectivement un échange par vidéo d'une Tongva qui se trouvait être la directrice d'une association autour des amis de la LA River. J'aurais bien aimé descendre un bout de rivière avec eux ou voilà, mais ça s'est pas fait.
Parce que comme souvent quand même aux États-Unis, il reste le nom des Amérindiens souvent dans la toponymie des lieux. Ouais. Et ce sont les personnes les plus invisibles qui soient dans ce pays. Donc d'ouvrir le livre, d'avoir ce titre en langue Tongva et après la première page. Alors le livre est dédié à Los Angeles, mais le nom n'est jamais prononcé dans les pages. Et la première page
Eden.
Et c'est une carte. Et quand on regarde la carte, la plupart des mots sont en langue Tongva.
Oui, mais ceci dit, il en reste énormément des mots Tongva dans l'appellation actuelle de certains lieux à Los Angeles. Kawenga Peak, par exemple, c'est un mont Tongva, il y en a plein. Et il y en a plein qui sont restés. Et les natifs américains du bassin, leur slogan, c'est « We are still there ». On n'a jamais disparu. Ils se sont à un moment cachés en disant « on est Mexicains, on est machin » puisqu'ils n'étaient pas du tout les bienvenus, mais ils n'ont jamais disparu.
Et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans le livre, qu'ils ont tout traversé et qu'ils sont toujours là.
Voilà.
Élise ?
Mais sur la question du langage, moi je voulais juste revenir aussi sur le lexique. Je ne l'ai pas trouvé si indispensable pour lire. C'est assez intéressant de voir à quel point on a eu des lectures différentes parce que je m'y suis assez peu référée. Je m'en suis rendu compte assez tard qu'il existait, c'est en fait ce glossaire. Et j'ai trouvé très intéressant la façon dont finalement c'est très fluide et vous inventez presque une autre forme de littérature, presque vous n'inventez pas une nouvelle forme de littérature, mais de la même façon que vous nous amenez à reconsidérer les espèces vivantes qui nous entourent, vous nous amenez à reconsidérer aussi la littérature et la façon dont on peut lire et dont on peut communiquer avec un livre et avec l'esprit de celui ou de celle qui l'a écrit. Et moi, ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Est-ce que vous-même, vous vous sentez dans une forme de communion, comme ça, avec les gens qui vont vous lire ou avec le livre, avec la littérature en soi, quand vous écrivez, Céline Minard ?
Avec la littérature quand j'écris, oui. Enfin, oui, évidemment. Parce que pour moi, c'est vraiment peut-être pas un outil, mais un exercice d'exploration et mais c'est très physique, hein. C'est pas du tout une expérience de pensée tout à fait. C'est plus physique que ça. C'est moins abstrait. Et quand j'écris le livre, je découvre le livre. Je suis absolument au même niveau que le lecteur, en fait. Et, enfin bon, je comprends peut-être un peu plus ce temblé. Je sais ce que c'est qu'une cab. Mais en même temps, au cours du livre, elle va avoir d'autres fonctions, des nouvelles fonctions. Elle va pouvoir pousser, par exemple, lentement. Elle va pouvoir maintenir l'hygrométrie, etc. Au début, je ne sais pas toujours. Mais bon, voilà, je sais d'où elle vient, la cab. Je ne sais pas tout à fait ce qu'elle va faire. Le plan, c'est celui de la rivière. C'était hyper simple. C'est un livre spatial. Donc, voilà. C'est un livre géographique, celui-là. Et la ville, elle était là. Le plateau, disons, il est là. La rivière, elle est dedans. Elle fait comme ça. On ne peut plus simple. Et les espèces animales sont aussi déjà là. Il y a beaucoup de vie sauvage autour de Los Angeles et même dedans. Je veux dire, moi, j'ai rencontré des raccoons en sortant les poubelles à minuit. Enfin, ils sont là. Et ils sont spéciaux.
Certes, Tovanga de Céline Minard aux éditions Rivage, un livre dédié à Los Angeles avec une exergue signée Héraclite d'Éphèse et de Los Angeles. Lorsque j'entre dans une rivière, je n'entre pas dans la rivière et ce n'est pas moi qui y entre. Ce livre est sans doute une révolution littéraire et mauvais genre. Vous le recommande très chaudement. Tovanga chez Rivage.
Would I be awakened where the wrong side renders?
But I did not.
Would I be dangling towards demise?
But I did not.
Forgetting about the innocent splendors?
But I did not.
And rage blinding my eyes?
But I did not.
Could have slouched into deception? Just made it make more sense.
But I did not
accept the devilish invitation.
but I did not.
Should I just sit upon this fence? No, I won't let go. Taking in the herald, I hear a harking. Against the boneyard, hounds are barking. Almost went to bed, just hating it,
but I did not.
Almost managed to manifest,
but I did not.
Tormented by just stating it,
but I did not.
A situation so self-obsessed,
but I did not.
Chronique maintenant dans Mauvais Genre sur France Culture. Et on ouvre avec l'almanach de l'étrange.
Dans l'atelier de Sophie Lecomte, il y a des mues de serpents, des rostres d'insectes, des épines d'arbres, des cailloux, des coquillages, des crânes. Autant d'éléments que l'artiste a récoltés dans la nature et avec lesquels elle a créé des sculptures qui ressemblent à des secondes peaux. Comme ces chaussures, composées en épines de rose, ce casque hérissé d'épines d'acacia. On ne sait pas trop si ce sont des vêtements, des habitations, des carapaces ou des armures d'ailleurs, tant ces sculptures piquent. Mais il y en a d'autres moins dangereuses au toucher, comme la série capillaire reproduisant des fragments de corps en lichen, ou ce pied que Sophie Lecomte a patiemment réalisé avec des centaines d'écailles de poissons translucides et qui s'intitule « Mélusine ». Ce pied questionne. Est-on face à la preuve de l'existence de Mélusine ou face à la présence d'une créature hybride qui aurait laissé sa mue derrière elle? Nous voilà, de fait, plongés dans le monde poétique de Sophie Lecomte. Un monde où les différents règnes, qu'ils soient animal, végétal et minéral, sont mêlés à l'humain. L'artiste crée des liens, des analogies, des rapprochements entre ces règnes avec une focalisation particulière sur les enveloppes corporelles. Car là où l'être humain n'a que sa peau, fragile, recouverte de vêtements pour se protéger, les animaux, eux, ont leur pelage, leur carapace, leurs coquilles ou leurs écailles. Alors, autant s'inspirer les uns des autres. Autre thème qui traverse le travail de Sophie Lecomte, la mémoire, la mort, ou peut-être plutôt le temps qui passe. Comment donner à voir notre passage sur Terre? C'est une question que Sophie Lecomte a commencé à se poser avec la mort de son grand-père et qu'elle a choisi d'incarner avec une œuvre au long cours, une robe composée entièrement à partir de ses propres cheveux. Cette œuvre, intitulée Air, jeu de mots entre l'anglais et la Air, chemise rugueuse que portaient les pénitents, a débuté à la fin des années 90. Elle est composée de ses premiers cheveux, boucles, nattes et autres scalpes que sa mère gardait précieusement dans une armoire familiale, auxquels Sophie Lecomte ajoute ses cheveux coupés tous les 3 à 4 ans à peu près. La robe a ainsi poussé et fait aujourd'hui la hauteur de son corps. On imagine que les prochaines années seront consacrées à une longue, très longue traîne. À chaque nouvelle étape de sa robe, Sophie Lecomte l'enfile pour se faire prendre en photo. C'est une robe très lourde qui donne la sensation de devenir femme des forêts, femme sauvage, tout en donnant à voir le passage du temps, la métamorphose de son être au fil des ans, représentant tout à la fois celle qu'elle a été, celle qu'elle est et celle qu'elle sera. Alors, pour découvrir le travail de Sophie Lecomte, ses œuvres, expositions, mais aussi ses installations sonores faites avec le compositeur Alexandre Lévy, vous pouvez vous rendre sur son site ou sur la page de l'Almanach de l'Étrange. Et puis, pour contempler le pied en écailles de poisson, filez au plus vite au musée de Pont-Aven en Bretagne, l'occasion rêvée de découvrir Sorcières, Fantasmes, Savoir, Liberté, une exposition aussi magique que passionnante qui s'intéresse à la représentation des sorcières dans l'imaginaire du 19e siècle avec des incursions dans l'art contemporain et entre autres ce précieux pied de Mélusine. Une exposition à voir jusqu'au 16 novembre 2025.
Merci Céline. Élise Lépine.
Alors dans la moisson de rentrée littéraire, moi j'ai adoré un roman signé Clément Camard Mercier, La Tentation Artificielle, qui paraît en collection blanche chez Actes Sud, mais qui est très mauvais genre. Clément Camard Mercier, il avait publié il y a 2 ans un premier livre, le roman de Jeanne et Nathan, qui mettait face à face 2 personnages très différents. D'un côté, un professeur d'université, de l'autre, une actrice porno qui se rencontrait dans un centre de désintoxication et qui vivait une grande histoire d'amour. Et j'avais adoré sa plume, son originalité et la façon dont il nous mettait face au rapport qu'entretient notre société avec l'addiction et la pornographie. Cette année, il continue à explorer les travers de notre ère contemporaine en s'intéressant au milieu de la tech et à l'intelligence artificielle. Son héros, Jérémy, est un as de l'algorithme qui est courtisé par toutes les grandes start-up de France, du monde entier. Professionnellement, tout va très bien, mais sa santé se déglingue complètement. Il a du pus dans les sinus, il a mal aux yeux, un chalazion, il a mal au dos, il a un kyste à l'anus, il a des mycoses dans les orteils, enfin que des symptômes très chiants, je le cite. Mais rien de bien grave et rien de qui soit cohérent et qui pointe vers une maladie particulière. Alors sa vie personnelle est tout aussi en berne que sa santé. Il a sa mère qui dépérit dans un EHPAD. Sa femme l'a quitté après un drame terrible. Il vit seul dans une immense maison connectée qui le connaît par cœur et qui lui veut beaucoup de bien mais qui ne l'aime pas. Et il finit par craquer. Donc il embarque pour l'abbaye de Solesmes sur la suggestion d'un algorithme justement pour faire une retraite spirituelle, non sans avoir dit adieu à sa mère de manière assez radicale. Et à l'abbaye, il découvre l'existence d'un ancien manuscrit médiéval, le Code. Ça rappelle quelque chose aux gens qui connaissent un peu les sciences informatiques, qui abat les frontières de la connaissance et qui rapproche l'homme de Dieu et donc de l'immortalité. Et ça va lui inspirer une idée. Et notre ami va se mettre à l'ouvrage pour créer une intelligence artificielle capable de hisser l'homme au rang de divinité éternelle. Mais est-ce que cette idée est angélique ou diabolique? Eh bien, elle est plutôt diabolique, je vous spoil, hein, cher François, vous en doutez. Et on se rend compte que l'humanité n'est qu'à un cheveu de confier les rênes de son anéantissement à des machines qui ressemblent à l'homme, mais en bien pire. Donc c'est un roman qui est noir, scabreux, criminel, avec une ambiance un peu tarantinesque, mais on peut penser aussi à Umberto Eco, ultra pop. C'est à la fois très documenté, très pointu, c'est très passionnant dans les théories qu'il développe sur l'IA, et ça repose sur une plume tonique, grinçante, élégante, mais aussi vraiment drôle, avec un humour noir et froid. C'est vraiment un des écrivains les plus étonnants du moment, Clément Camard-Mercier, avec La Tentation Artificielle, c'est chez Actes Sud.
Merci, bah, si les intelligences artificielles vous recommandent d'aller à Solesmes, alors là, moi, j'y comprends plus rien. C'est très bon signe, pour elle et pour moi. On termine avec vous en chronique, Fleur Hopkins-Leferon.
Absolument, et j'avais envie de vous faire 2 recommandations de nouvelles coups de poing que j'ai particulièrement appréciées et qui vous aidera à garder la tête hors de l'eau en plein raz-de-marée de la rentrée littéraire. Alors, première suggestion, c'est Briser les eaux de Cassandra Co, qui paraît chez Argile. Argile qu'on connaît bien pour la collection Récif, une collection qui va rendre visibles des auteurs non-binaires, des auteurs fluides, des auteurs racisés. Donc, il y a vraiment un engagement très fort de la part de cette collection. Et donc, Briser les eaux, c'est un texte assez particulier qui met en scène un narrateur non fiable, un certain John Persons, détective de son état, et qui se voit confier une drôle de mission. Il doit tuer le beau-père de son client qui n'est autre qu'un enfant. Il a un monstre en lui, il se passe tout un tas de choses. Et c'est un roman, une novella, pardonnez-moi, assez étrange, qui mêle le roman noir, l'univers de Lovecraft, un petit peu de Constantine de Sandman et, imaginons, Frank Black de Millennium. Donc voilà, c'est absolument saisissant, c'est poisseux, c'est étrange, c'est frappant, des images tout à fait saisissantes. Et dans le même temps, je vous recommande aussi Au Diable Vauvert, Calamity Jane, un homme comme les autres de Justine Niogré. Là aussi, une narratrice non fiable, elle nous ment, elle nous tourne en bourrique. Et surtout, dans Calamity Jane, on ne sait pas si elle nous raconte ou non la vérité. Et là où ça m'a assez fascinée, c'est que dans le premier, dans Briser les eaux, il y avait une réécriture significative du polar noir, avec cette fois du Lovecraft, des tentacules, du pus, de la répugnance. Et chez Justine Niogré, cette fois, et ben de manière inattendue, on a presque une réécriture du chant de Noël de Charles Dickens. On va traverser les différentes étapes de la vie de Calamity Jane et on va redécouvrir des zones d'ombre, des zones étranges, puisqu'on sait bien que Calamity Jane, elle a complètement inventé, fabulé sa propre mythologie personnelle et on a du mal à différencier qui était la femme de légende de la femme qui a véritablement vécu. Donc vraiment, 2 suggestions de lecture, 2 novellas qui s'avalent à une vitesse vraiment galopante, qui nous donnent des narrateurs non fiables, des anti-héros. On ne sait pas si on les aime quand on a refermé ces novellas, mais en tout cas, vraiment des textes qui restent en mémoire. Et puis, je voulais tout de même signaler à nos auditeurs qu'actuellement, il se passe quelque chose de très curieux en boîte à livres. Il y a un Tintin maudit qui s'appelle Le passage incertain, et qui est un petit peu un mélange entre La Maison des Feuilles et S de J.J. Abrams, un texte incompréhensible, intraduisible, on dirait presque un Necronomicon, et il se murmure qu'il se cache dans certaines boîtes à livres en France. Donc,
partez. Quand vous dites les boîtes à livres, c'est
les boîtes à livres un peu partout, exactement. Exactement. Donc, partez après lui, mettez-vous en quête du passage incertain pour découvrir peut-être un mystère lié à Hergé et à Tintin.
Merci Fleur Hopkins-Leferon. Céline Minard, on va vous enrôler comme chroniqueuse. Dans vos dernières lectures, qu'est-ce qui vous a découverte, lecture, film, musique
D'accord, là ça va.
Los Angeles, Paris.
Mais je suis en train de lire le dernier livre de Gabriela Cabezón Camara. Et je suis au milieu. Et c'est très bien.
Très bien, on note ça. Élise Lépine.
Et moi, je voulais recommander aussi À la table des loups de Adam Rapp aux éditions du Seuil. Adam Rapp, c'est un auteur américain dont la mère était infirmière dans la prison où a été exécuté John Wayne Gacy. C'est le redoutable tueur en série qui a inspiré le clown de Stephen King. Et il s'est rendu compte que sa mère avait soigné cet homme avant son exécution, un peu par hasard, et ça lui a inspiré une immense fresque familiale qui se déroule sur plus de 500 pages, 6 décennies, avec au milieu de cette fresque une famille qui seront soit frôlés malgré eux par des tueurs en série, soit eux-mêmes tueurs en série. Parce que la théorie d'Adam Rapp, c'est que l'Amérique est tellement violente et corrompue qu'on ne peut pas y vivre sans être approché par quelqu'un qui veut nous tuer sans avoir forcément de bonnes raisons de le faire, et c'est ce qu'on appelle un grand roman américain. C'est impossible à lâcher, c'est très sombre, c'est très prenant et ça dit tout du cœur vraiment très noir de l'Amérique contemporaine et de ses démons. À la table des loups par Adam Rapp, c'est aux éditions du Seuil, traduit par Sabine Porte.
Merci Élise. Céline, encore une proposition.
Oh, on peut citer soir, aussi, alors je sais bien qu'elle était l'invitée d'Arnaud Laporte, mais on peut citer aussi le premier roman de Rebecca Warrior. Tout est vie, extraordinaire. Vraiment un roman qui parle de l'accompagnement qu'elle a pu faire auprès de sa compagne et donc du cheminement à travers la maladie. Et c'est un grand livre d'amour et aussi un grand livre sur une quête spirituelle que je recommande avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, ce livre.
Absolument, je confirme tout à fait. Donc tout cela, vous le retrouverez indiqué sur la page Mauvais Genre du site de France Culture. Céline Minard, alors question traditionnelle, le prochain livre, parce qu'après Tova Hangar, ne me dis pas qu'il y a Tova Hangar 2, l'aventure continue, pourquoi pas après tout.
Mais non, vous savez bien que l'aventure continue jamais avec moi, elle est là, elle est faite, et après je passe à autre chose, et je ne vous dirai pas à quoi.
Ah bah j'espère. Merci infiniment. Donc je rappelle tout ce dont nous avons parlé ce soir. Céline Minard, Il faut lire Tova Hangar aux éditions Rivage. Sophie Lecomte, Mélusine 1 est visible dans le cadre de l'exposition Sorcière à Pont-Aven jusqu'au 16 novembre. Clément Camard-Mercier, La Tentation Artificielle, c'est aux éditions Actes Sud. Calamity Jane, Justine Yogret, c'est aux éditions Le Diable Vauvert. Vous me rappelez l'autre volume?
Cassandra Co, Briser les eaux chez Argile.
Absolument. Et puis, de toute façon, continuez à lire Céline Minard. Après Tova Hangar, vous pouvez lire Plasma et Le Dernier Monde. Et puis,
À la table des loups d'Adam Rapp, traduit par Sabine Porte au Seuil.
D'accord. Et ben voilà, tout est noté. Merci infiniment. Merci Céline Minard d'avoir été ce soir notre invitée. On se retrouve dès que possible pour une autre révolution littéraire. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Jean-Guilain Mèche, Claire Poinsignon, Céline Duchesnec, Martin Dugard, Élise Lépine, Fleur Hopkins, Loferon et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. On parlera de l'étrange festival, on parlera du livre de notre ami Grégory Le Floch, Peau d'ours au Seuil, et puis surtout on recevra Pierre Jourde pour son formidable roman Fin de siècle sur le milieu des frics et des cirques, La Marchande d'oubli. Vous avez écouté donc Mauvais Genre. Merci à toutes et à tous.